Dieu vous bénisse. Salut tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au vendredi, âme n'a pas voulu trop vous charger, comme ceux qui vont faire prière. Alors, il y a culte le matin, celui du soir, on l'a supprimé, mais je vais devoir revoir le planning parce qu'il semble que dans le planning, il était maintenu le culte du matin. Oh non, maintenant nous avions décidé qu'il y aurait seulement culte le soir. Mais c'est pas grave. On fera ça le matin. Il y a veillée de prière le matin. Il y a veillée de prière le soir. C'est pas vrai, Benoît? Je suis content de te revoir. Ah, toi aussi. Tu me l'as pas dit. Dieu te bénisse. Et tout sauf une surprise, tu sais. Je savais que tu serais là. Donc, il y a un vent favorable qui me l'a dit. Sois la bienvenue. Je te bénisse. Grande sœur, le petit m'a dit, Olesana. Olesana. De tout cœur. Sérieusement, ils te soutiennent. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, en ce jour, nous venons à toi, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, te remerciant pour ta bonté, la grâce que tu nous fais ce soir, d'avoir ce souffle de vie, ainsi que les moyens physiques de pouvoir nous assembler. Nous te demandons de prendre le contrôle de toutes choses, de l'atmosphère qui sera au milieu de nous, prenant le contrôle de notre état physique, prenant le contrôle, Seigneur. Que tu sois le maître au milieu de nous. Prends aussi le contrôle de notre concentration, tant pour ceux qui écouteront que celui qui parlera, afin que nous ne nous éloignions pas de ta parole. Ainsi que tu nous l'as dit, que ta promesse, la promesse du Père s'accomplisse, il nous était demandé de ne pas nous éloigner de la parole de Jérusalem. Habacuc, pour savoir ce que tu allais dire, il était à son poste. Aide-nous, Seigneur, à occuper d'une manière qui te plaise notre poste ce soir, de manière à ce que nous puissions recevoir ce que tu as à nous dire. Nous te remercions pour notre frère qui est parti se reposer. Nous te le remettons entre tes mains. Nous te remercions de l'avoir gardé pendant son voyage. Remercions pour la grande sœur qui est là et celui qui console les cœurs. Que tu la bénisses également. Remercions pour notre fille qui est là de loin. Merci de l'avoir gardée, que tu la bénisses. Et pour tous ceux qui sont ici au quotidien, c'est toujours plaisir de nous revoir en bonne santé. Veuille garder la santé de nous tous sous ton contrôle. Et veuille aussi pardonner nos péchés. Et ils sont nombreux, certainement. Nous ne sommes pas assez téméraires pour dire que nous ne péchons pas. Pardonne-nous, ô Dieu, selon ta miséricorde et ta grâce, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous nous en remettons à toi, que tu veuilles bien nous exaucer, nous parler au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons demandé tout cela. Amen. Amen. Allons lire ce soir dans Hébreux chapitre 11. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, nous pouvons nous asseoir. Nous intitulerons le sujet de ce soir « Étrangers et voyageurs sur la terre ». C'est le lot de ceux que Dieu appelle. Si Dieu vous a appelé, il vous a appelé à quitter ce monde, cette mondanité. Père qui a composé le cantique dit à juste titre, ou parfois quitter aussi ceux qu'on aime. Du coup, parmi ceux qu'on aime, on devient un étranger. Faites que Dieu nous a appelés. Dieu appelle quelqu'un dans une famille et n'appelle pas les autres, la personne peut facilement être en conflit avec ses propres frères, ses propres sœurs, voire même avec ses parents. Jésus a dit, il a porté l'épée. Et tous ceux que Dieu appelle, Dieu leur a promis de leur montrer un pays. Ce qui est dit à Abraham. Dans Genèse chapitre 12. Il va le conduire dans un pays que lui-même, il leur montrera. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Plusieurs siècles plus tard, un enfant d'Abraham, un fils d'Abraham, sera projeté dans le jour du Seigneur. Jean, l'apôtre, dans Apocalypse, il vit des choses, il vit les événements qui se passeront à la fin. Et il nous dit ceci, entre autres, dans Apocalypse 21, Et un ange est venu lui parler. Parmi les sept anges, il y avait une trompette qui tenait les coupes. Puis, un des sept anges qui tenait les sept coupes, plutôt, rempli des sept derniers fléaux, vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai. » Amen. À lui aussi, il est question de lui montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. On lui a dit qu'on lui montrera l'épouse et on lui montre la ville sainte. Ça va? Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. On la lui a montré. Il n'est pas entré, hein? On la lui a montré. Lui aussi, il l'a vu de loin. Et tout appelé de Dieu que vous êtes, je suis, nous sommes tous en direction de ce pays. Nous savons qu'il y a un pays quelque part que Dieu nous a réservé. Une ville, si vous voulez, un pays, un endroit, une patrie où nous allons vivre. Si vous prenez cela dans la dimension d'une ville, c'est une ville dont Dieu lui-même en est le constructeur. Que Dieu lui-même en est l'architecte. Et Dieu nous a tellement bien parlé de cela dans nos villes, dans nos vies, que nous le chantons. On nous fait chanter le 188. Tous nous chantons avec plein d'étoiles dans les yeux, n'est-ce pas? Rêvant de nous retrouver déjà dans cette ville de lumière, fixée sur les hauteurs. Les appelés de Dieu savent que cette ville, savent que cette patrie existe. Ce n'est pas un mythe. Et la Bible dit, ils sont tellement convaincus qu'elle existe, si vous en êtes convaincus. Du moins, il faut parler comme les Abraham ici. Parce que eux, ils savent de quoi ils parlent. Il y en a qui sont là, juste pour être là. Mais ne vous en faites pas. Lorsque je chante que je suis en route vers Jérusalem, ce n'est pas pour le plaisir de chanter. Je sais que je suis en route. Et que Jérusalem, elle existe réellement. Je ne vous parle pas de l'actuelle Jérusalem qui est divisée en deux, qui est souvent source de problèmes. Je vous parle d'une Jérusalem qui n'est pas ici. Celle d'ici, c'est celle qui est construite par les hommes, mais il y en a une qui est construite par Dieu lui-même. Et cette cité-là, elle est permanente. La cité de Jérusalem. C'est une ville éternelle. Elle ne change pas. Bruxelles, ça change. La Jérusalem terrestre, elle change. Ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente. La population change, le décor change. Quand nous circulons avec les GPS, si nous ne les mettons pas à jour, il peut arriver qu'un jour on arrive à un endroit où le GPS se plante parce que le décor a changé. Nous sommes convaincus que cette patrie existe. Dieu lui-même l'a préparé. Et il nous a dit que ce verset 14, dans Hébreux 11, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, donc si vous regardez un peu en arrière, d'où vous venez, si vous commencez à regretter l'ancienne ville, vous n'êtes pas un appelé comme Abraham. Vous êtes un appelé autrement, mais pas comme Abraham. Abraham, il est parti, il a laissé famille, donc frère derrière, neveu, nièce, il les a laissés derrière. Il y a juste un neveu qui l'a suivi, de son frère qui était décédé. Il n'a pas regardé en arrière, se disant, j'ai ma famille là-bas derrière. Non, il est parti. Sans regarder en arrière, parce que s'il regardait en arrière, il allait vouloir y rentrer. Nous sommes sortis pour ne plus rentrer. Nous sommes définitivement sortis. Donc s'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, c'est-à-dire que Dieu vous laisse le temps de rentrer. Pour montrer que vous êtes ferme dans votre décision. Et vous ne partez pas avec des regrets. Que quelqu'un regrette ici que Dieu l'a appelé. Oui. Personne ne le regrette. Au contraire, nous y allons. Paul dit aux Thessaloniciens, allez-y joyeusement. Amen. 1 Thessaloniciens 5, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Verset 16. Soyez toujours joyeux. Il dit ça aux Thessaloniciens et pourtant, la vie n'était pas rose pour les Thessaloniciens. Toujours le même livre des Thessaloniciens, au chapitre 4, il parle des frères qui sont morts, qui sont décédés. Et ici, dans chapitre 5, juste avant, soyez toujours joyeux. Il supplie les frères, il dit, verset 14, « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. » Il y a des frères qui vivent dans le désordre. « Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Si on vous a fait du mal, ne rendez pas le mal. » On a dit du mal sur vous, ne dites pas du mal. Dites amen à ça. Si, donc, mais recherchez toujours le bien, vous continuez toujours à rechercher le bien, soit entre vous, soit envers tous. Vous savez qu'en agissant ainsi, vous êtes en train, en tant qu'étranger, vous êtes en train de parler de votre pays d'origine, où l'on dira que ces gens-là, ces étrangers-là, ils sont bien, ils donnent une bonne image de l'endroit d'où ils viennent. Ou du moins, de l'endroit d'où ils sont. Mais nous avons ici, si on regarde dans le naturel ici, en Belgique, il y a des communautés étrangères qui donnent un très mauvais témoignage de leur origine. Où tout le monde se dit, on prend toute la nationalité, on dit à ces gens-là, ils sont comme ça. Alors qu'ils ne sont pas comme ça. Oui ? Donc les chrétiens, le témoignage que l'on rend des chrétiens doit manifester vraiment la patrie d'où ils viennent. Un chrétien ne se promène pas toujours tristouné parce que il a des promesses de la part de celui qui ne ment jamais. Là où les autres sont accablés, ils se promènent tristounets, traînant les pieds, où l'oiseau regarde, il se demande si c'est quelqu'un qui vient vraiment de là-haut. Le petit oisillon demande à sa maman, « Maman, est-ce que les humains, ils ont aussi un Père céleste comme nous en avons un ?» Pourquoi ? Parce que quand je les vois aller travailler, ils ont la mine allongée. Or, l'oiseau, dès le matin, alors qu'il faut aller travailler, il doit aller chercher sa nourriture ou fortifier son nid, l'oiseau commence par chanter. Quand quelqu'un chante, ça veut dire qu'il est dans la joie. Amen. Jésus a dit, les oiseaux, le Père Céleste s'en occupe. Il leur donne toujours de la nourriture. L'oiseau ne se préoccupe pas de ça. Nous, nous sortons le matin avec des soucis. Qu'est-ce que les enfants vont manger aujourd'hui si on en a en bas âge? Ou même parfois, vous-même, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Le frigo est vide, le portefeuille crie misère. Bref, on se pose des questions. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Vos inquiétudes ne prolongeront pas d'une coudée 50 cm votre vie. Oui, c'est ce qu'il a dit. Donc, ne nous inquiétons pas. Faisons-lui confiance. Il nous dit aussi ceci, ou plutôt l'apôtre Pierre, un frère des premières heures là-bas, nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pierre vous le dit par expérience. Ils étaient très attachés entre eux, les disciples. Jésus leur avait enseigné, leur avait donné, leur avait dit ceci, aimez-vous les uns les autres, c'est ainsi que l'on saura que vous êtes mes disciples. Aujourd'hui, on sait qu'ils sont, ils ont été les disciples du Seigneur par l'amour qu'ils avaient les uns envers les autres. Mais après l'ascension du Seigneur, certains d'entre eux, dû au fait de la persécution, certains ont été tués. Jacques, premier martyr. Il y a eu Issa. Oh, Jacques était très proche de Pierre. Jacques, Étienne, lui-même Pierre, mais ses disciples, ils étaient toujours joyeux. Jean, dans Apocalypse, il ne se plaint pas. C'est parce qu'ils étaient convaincus de ce qui les attendait. Donc, s'ils avaient eu en vue la cité ou la patrie d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Comment savez-vous qu'il y en a une dans les cieux? C'est Dieu qui nous l'a dit. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Et moi, je n'ai pas honte de l'appeler comme étant mon Dieu. Car il leur a préparé une cité. Amen. Comment savent-ils ça? C'est par la foi. Étrangers et voyageurs sur la terre. C'est exactement ce que nous sommes. On a parlé de l'oiseau ici. Nous sommes loin de chez nous, comme l'oiseau qui erre loin de son nid. Un oiseau va loin de son nid. Le proverbe nous dit ceci. Proverbe 27. Verset 8. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. Avant que Jésus-Christ ne vienne, nous étions tous des brebis errantes, sachant pas trop bien où nous allions. Jésus est venu, il nous a parlé de l'endroit qui nous attend. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des brebis errantes, mais nous savons où nous allons. Notre nid est en haut. Et nous nous dirigeons dans sa direction. Le monde, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes étrangers dans le monde. Nous ne sommes pas comme le monde. Nous ne faisons pas comme le monde. Nous ne faisons pas les choses du monde. Si on est d'accord, on se dit Amen. Nous sommes différents. Vous savez, dans le monde, quelqu'un de mondain qui entre ici, il force la boîte du frère là-bas derrière, où vous mettez vos enveloppes, il voit l'argent. S'il est mondain, il va prendre l'argent. Mais si vous n'êtes pas du monde, si vous êtes chrétien, vous allez téléphoner au frère, lui dire, frère, viens vite à l'assemblée, on a forcé la boîte. Et vous ne prenez rien. Ouais. Et quand vous direz ça à un mondain, il dira que vous êtes bête. Ouais. Surtout en plus, si vous creviez de faim. Il dira, vous êtes bête. C'est ton Dieu qui a fait que tu arrives là, que tu trouves ça comme ça. Donc, il fallait prendre ça pour toi. Il t'a dit ça. Amen. Dans Jean 17, Jésus prie. Verset 13. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Ce sont des gens différents. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Joseph, un mondain, quand il va lire l'histoire de Joseph, il va trouver Joseph bête. Mais Joseph, c'est quelqu'un qui avait un comportement différent d'un terrestre. Quelqu'un qui a l'esprit terrestre se comporterait différemment. Tandis que Joseph, il avait un esprit tout à fait céleste. Il était différent. C'est que frère Abraham dit, on va vous traiter de poule mouillée. Hein? Lingala, ils disent, Zoba, Yuma. ce n'est pas être une poule mouillée ou yuma. Il est différent. Dans sa patrie, les valeurs sont autres. Il a été éduqué d'une autre manière. La vieille manière qu'il avait, c'est parti. Celui qui garde encore ces manières-là, qui saute sur, entre guillemets, toutes les premières occasions qui se présentent, il y a un problème dans son expérience. Vous ne savez pas que ces choses-là viennent parfois pour vous éprouver. Comme ça, vous pouvez voir si réellement vous êtes d'en haut ou si vous êtes d'en bas. Nous ne sommes pas mondains, nous sommes des étrangers. Nous sommes étrangers sur cette terre. Qui dit étranger, dit aussi le fait qu'un étranger, là où il va, il n'est pas du pays, il est vulnérable. Il n'est pas dans son pays, il n'est pas vraiment à l'aise. Et quand on remarque que vous êtes un étranger, on va vous arnaquer facilement. On va regarder, celui-là n'est pas d'ici. Et on va vous embarquer dans une affaire. Vous croyez que ça se passe comme cela dans le pays en question, mais en fait, il vous arnaque. Abraham, Dieu l'a conduit jusqu'en Canaan. Abraham est arrivé là. Les habitudes d'Abraham devaient être... Abraham était là. Il est venu. Il était païen. En arrivant en Canaan, sa vie était devenue différente par rapport à celle des Cananéens. Il ne se comportait pas comme eux. Il vivait même à l'écart. Et puis la famine a frappé. Abraham est parti en Égypte. Il était étranger. Ce qui est bizarre, c'est que pendant qu'il allait là-bas, bon, il venait d'avoir son appel, sa vocation, comme dit Hébreux 11. Abraham avait, dans les 75, 76 ans peut-être, lors de la famine, je ne sais pas, 77, Sarah en avait 10 de moins. Il faut dire que quand il est parti en Égypte, Sarah devait avoir dans les 65, 67 ans, quelque chose comme ça. Mais c'était toujours encore une belle femme. C'était toujours Sarah. Elle n'avait pas encore été changée. Mais cette femme d'une soixantaine d'années, étant très belle, je ne sais pas si en Égypte, il n'y avait pas de femme plus belle que Sarah. Ou en tout cas, aussi belle qu'elle, et plus jeune. Libre peut-être aussi, non mariée. Alors, qu'est-ce qui fait que cet étranger vient avec sa femme d'une soixantaine d'années? La femme que l'on voit, c'est la femme de l'étranger. Vous n'avez jamais posé cette question? C'est facile d'aimer la femme de l'étranger. Il n'aura rien à dire. Bon, il faut dire que Pharaon ne le savait pas, mais on demande quand même. Hein. On pose la question. Et il a eu peur parce qu'il était dans un pays qui n'était pas le sien. Dans son pays, il aurait dit, c'est ma femme. C'est vrai, c'est ma demi-sœur, mais c'est ma femme. Mais en Égypte, il n'a pas osé le dire. Il dit, ces gens, ils ont toujours leurs yeux écarquillés comme ça. À scruter. Et il a eu peur. Il a dit, c'est ma sœur. Et Pharaon, quand il a entendu que c'était sa sœur, il ne s'est pas posé de questions. Ça, c'est la manière de Pharaon. Jamais un Égyptien partirait avec sa femme très belle en Israël et que les Israélites se mettent à se dire, un véritable Israélite se dise, quelle belle femme, je vais la prendre comme ça. Pourquoi ? Parce que dans leur pays, chez les Israélites, il y a une loi. La loi divine qui parle de ces choses-là. D'adultère, d'infidélité, de toutes ces choses. Il y a une loi. Les chrétiens, ils sont fidèles. Un véritable chrétien. Quand on dit véritable chrétien, c'est ce que les gens intelligents de la grammaire disent, c'est un pléonasme. Ça veut dire une répétition. Un chrétien, il est véritable. Il n'y a pas de faux chrétiens. Il y a des soi-disant chrétiens. Quelqu'un qui se proclame chrétien, mais il ne l'est pas. Il te chante des cantiques, il te saute plus haut que tout le monde, mais en fait, il n'en est pas un. Donc, les étrangers, leurs droits sont vulnérables. Regardez à Jacob. Il part, il s'installe à Sichem. Le fils du chef qui était là ne s'est pas posé de questions. Il vient, il enlève la fille de Jacob. Il s'en va avec. Et puis, il vient après, il dit, je veux l'épouser. Ça ne se passe pas comme ça. Chez les chrétiens. Nous avons nos lois et ces lois sont en nous. C'est le psalmiste qui dit, si je me mettais à parler comme eux, je trahirais ceux de la race de Dieu. On ne parle pas comme eux, on parle différemment. On agit différemment. On mange différemment. Dans la loi de Moïse, comme on est vulnérable, Dieu qui nous dit que nous sommes, nous qui avons eu l'appel, comme Abraham, Isaac, Jacob, nous sommes des étrangers sur la terre. Nous sommes vulnérables. Jésus nous a même dit, si on vous prend votre vêtement, donnez même la tunique. Mais Dieu ne nous laisse pas tomber. L'étranger, dans la loi de Moïse, bénéficie d'attention particulière. Parce que Dieu tient à protéger les siens. La loi de Moïse dit ceci, Deutéronome 10. Ça veut dire deux lois. Si vous mettez en pratique, si vous ne mettez pas en pratique. Verset 16. Vous circoncirez donc votre cœur. Dites amen à ça. Amen. La circoncision, c'est enlever le surplus de la chair qui est charnel. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. le Seigneur des Seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent. Dieu fait droit à l'orphelin, encore un qui a des droits vulnérables, et à la veuve, une qui a des droits qui est vulnérable, qui aime l'étranger. Dieu aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Alors, puisque Dieu aime l'étranger, vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Vous n'étiez pas chez vous. Amen. Ce que je dis ici sur Abraham et Pharaon est arrivé à Isaac également. Isaac est allé chez Abimélec. Déjà Abraham, quand il est parti chez Abimélec, c'était le cas encore. Il a eu le coup une première fois avec Pharaon. Deuxième fois, chez Abimélec, là, Sarah était rajeunie. Et Abimélec est tombé follement amoureux de Sarah. Genèse 20. Abraham partit de là pour la contrée du Midi, dans le sud. Il s'établit entre Kadesh et Shur et fit un séjour à Guérar. Chez Abimélec. Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur. » Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Vous voyez leur méthode? Carrément, il a fait enlever. Parce qu'Abraham a juste dit « C'est ma sœur », il a fait enlever. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir. Tu es un homme mort à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Il faut que Dieu agisse comme ça. Quand Dieu agit comme ça, finalement, les gens finissent par comprendre. Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste ? Toi, tu es juste, toi. Tu enlèves la sœur d'autrui comme cela. Dans ton idée, c'est la sœur. Tu l'enlèves, tu ne parles même pas, disant, écoute, est-ce que... Non, il enlève, il a fait enlever. Il n'a pas besoin de leur avis. Mais en fait, ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur ? Ce n'est pas une raison. Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? Ce n'est pas une raison. J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. C'est bien. Vous savez qu'Isaac, ça va être pareil. Isaac aussi, toujours chez Abimélec, à Guérar. Il va aussi avoir des problèmes. Mais là aussi, Dieu va sortir de là. Quant à Jacob, lui, au moment de sa fuite, il prie que Dieu prenne soin de lui. Il va dans un endroit, dans un pays, quand bien même c'est chez son oncle, il a quand même des appréhensions en lui, se demandant ce qui peut lui arriver. Dans Genèse 28, verset 20, Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage. » Donc là, Jacob se retrouve comme voyageur. Pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, Parce que vous allez dans un pays étranger, vous ne savez pas comment vous allez faire pour vous habiller, vous ne savez pas comment vous allez faire pour manger. Donc, si je à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix, parce que je ne parle pas pour tout, pour du bon, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu, ce qu'il aura pris en charge, ma protection. Vous qui, lorsque vous voyagez, vous demandez toujours que l'on prie pour vous parce que vous entreprenez un voyage, vous demandez pourquoi ? Parce que Dieu est celui qui vous protège dans votre voyage. Dieu est celui qui vous garde. Dans le psaume 121, le psalmiste dit ceci. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Sachez que celui qui vous secourt est celui qui a créé les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Malgré aujourd'hui, il était accablant, n'est-ce pas? On l'a senti passer, ce soleil, aujourd'hui. Ne vous en faites pas, il ne vous tombera pas sur la tête. Parce que Dieu vous garde. Amen. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. N'aie pas peur. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Alors, ce qui est important, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Vous voulez voyager ? Quand vous voulez voyager, lisez ce psaume. Sachez que l'Éternel gardera votre départ et votre arrivée. On a besoin de la protection de l'Éternel. On a beau nous dire, par exemple, si c'est un voyage par avion, on a beau nous dire, même le train, ils nous disent la même chose, que c'est le moyen le plus sûr de voyager. C'est vrai, il y a moins d'accidents mortels en avion. C'est vrai, quand ça arrive, c'est vraiment spectaculaire. Mais c'est rare. Vous avez plus d'un million de vols par an, vous apprenez peut-être qu'il y a eu deux accidents. Sur les routes, dans le monde entier, si vous comptez le nombre de personnes qui meurent sur les routes, c'est plus grand nombre. Vous voyez ? Alors, le problème est ceci, c'est vrai que c'est un moyen sûr. Mais ce qui n'est pas sûr, ce qui n'est pas très sûr, c'est l'homme qui va piloter ça. L'homme ou la femme qui va piloter ça. Vous ne savez pas dans quel état psychologique il est. Vous ne savez pas s'il est déprimant ou déprimé, ou s'il est vraiment en pleine forme spirituelle. Vous ne savez pas. Quand il est déprimé, au lieu de vouloir mourir seul, il va vouloir mourir avec ceux qui sont dans l'avion. Ouais. Avant de prendre votre... Vous les voyez arriver, ils sont là, ils causent. Vous priez, priez. Dites, Seigneur, ces gens-là, garde-les bien entre tes mains. Il est là, il est déprimé ou elle est déprimée. Fait semblant d'être joyeux. Mais en fait, il a déjà un plan. Que à peine après le décollage, ce qui est arrivé avec Air India, Je coupe le moteur. Et on entend dans la boîte noire l'enregistrement d'une voix. Un des deux demande à l'autre, pourquoi tu as coupé le moteur? Puis c'est le crash. Mais il n'y a que Dieu pour que vous soyez sûr de là où vous allez. Les voyages les plus sûrs sont les voyages que Dieu garde entre ses mains. Et quand les choses se passent mal dans un avion, pris dans une turbulence, j'ai déjà eu pas mal d'images là-dessus, mais c'est là que les gens deviennent pieux. Hein. Ça vous prie au nom de Jésus, même les musulmans vous prient au nom de Jésus. Et David le savait bien, puisque c'est un psaume de David, que Dieu gardait le départ et l'arrivée. Lorsque vous êtes en voyage, quand Dieu dit que nous sommes étrangers, voyageurs, si nous nous considérons ainsi, parce que nous savons que nous avons un Dieu. Nous sommes en voyage vers un pays que lui-même a décidé de nous préparer. David savait très bien que le voyageur, Dieu prenait soin du voyageur. Un voyageur, quand il part quelque part, Dieu prend soin de lui, pas seulement pendant le voyage, même là où il va, qu'il ne soit pas dépaysé, qu'il puisse se sentir chez lui, qu'il puisse voyager le cœur en paix. Sur le chemin, va sans peur, car Jésus est devant toi. Et David le savait tellement bien qu'un jour, il a eu à croiser un voyageur, il a voulu bien l'accueillir. Ce qui est très bien, mais sa manière de bien l'accueillir n'était pas bonne. Mais c'est parce qu'il s'est senti obligé d'accueillir ce voyageur. Parce que qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? C'est ce que le prophète lui dit, hein. De Samuel, quoi qu'il n'ait pas voyagé, mais le langage était imagé, mais vous savez, même les images nous disent ce qui est vrai. N'est-ce pas? Dans 2 Samuel 12, le prophète vient lui parler. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes. L'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il fallait bien l'accueillir. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David va s'enflammer. Oui, nous sommes étrangers. Nous ne sommes pas chez nous ici. Sur cette terre, nous ne sommes pas chez nous. Chez nous, il n'y a pas les deuils. Chez nous, il n'y a pas les maladies. Chez nous, il n'y a pas de médecin à aller voir qui vous sape le moral. Moi, j'avais dit ça une fois à mon médecin. Un médecin, et tout à fait au début, quand je commençais venant à les fréquenter, les médecins, je les aime bien, hein, sont des gens bien. Alors, il me dit, mais vous n'allez jamais chez moi? Je dis, non, je ne vais jamais chez le médecin. Il dit, mais pourquoi vous n'allez jamais chez moi? J'ai dit, parce que quand on va chez le médecin, on y va très bien, mais après, on apprend des choses déprimantes. Alors, je n'aime pas aller chez le médecin. Alors, il m'a regardé, il m'a dit, mais ce n'est pas ça qui va faire que ces choses-là déprimantes, vous ne les avez pas. Oui. Ah oui. Dernièrement, j'étais chez le cardiologue. Alors, il me sort toute une litanie de choses que moi, je ne lui ai pas demandé. Vous voyez? Bon, mais il m'a dit, ça va. J'allais lui dire, je ne lui ai pas dit. J'allais lui dire, voilà pourquoi je n'aime pas aller chez le médecin. Moi, je me sentais bien. Et il va vous dire, votre foie, vos reins, ceci et cela, il va vous dire ces choses alors que vous ne savez pas. Laissez-moi ignorer cela. Si vous, vous le savez, soignez cela. Il n'y a pas de problème. Mais laissez-moi ignorer. Mais ils veulent absolument que je le sache. Moi, je ne veux pas le savoir. Ça va? Dieu lui-même se sentait sur la terre comme un voyageur, vous savez. Quand Dieu est venu sur la terre, quand il était sur la terre, il était comme un voyageur. Il sait de quoi il parle. Quand il dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. La nuit, dans 2 Samuel 7, nous allons terminer par là, il dit, verset 5, « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. » On est souvent là à se dire, ah, si je m'achète mon appartement, je m'achète ma maison, je serai bien. Achetez la maison et vous verrez, vous n'êtes toujours pas stable. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas chez vous. Donc, Dieu dit, il n'a fait que voyager. Partout, j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. Et je dis un mot à l'un des chefs d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël. Et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Nous cherchons un endroit où nous pouvons y rester, nous reposer. Et y rester d'éternité en éternité. Louer Dieu, nuit et jour. Ne pas avoir des soucis. Se sentir bien chez nous. Et c'est vers cet endroit-là que nous tendons, que nous allons. Et nous savons ceci, que cet endroit existe bel et bien. Nous ne savons pas très bien quel chemin prendre, mais restons seulement près de Jésus. Parce que lui, il est le chemin. Et celui qui nous guide, celui qui nous conduit, lui, il sait où nous allons. Que Dieu vous bénisse. Étrangers sur la terre. Cette terre ne vous appartient pas. Les coups durs qui arrivent, quand un coup dur vous arrive de la part d'un terrestre, glorifiez Dieu. Dites, ah, c'est quelqu'un de la terre qui m'a fait ce coup-là. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Parce qu'un frère ne vous fera pas ce coup-là. Ni une sœur. Prions. Le cantique dit, je suis étranger sur la terre. Et c'est vrai. Notre joie, nous la trouvons en Jésus-Christ. Une joie profonde. Et c'est lui qui nous donne la paix, le repos. Il est vrai que nous avons parfois difficile à marcher, car nos valeurs ne sont pas celles de ce monde, celles de la terre. Nos valeurs sont différentes. Nous sommes d'en haut. C'est pourquoi tes enfants, tu les prends. Tu leur donnes l'Esprit Saint promis et tu les élèves dans les lieux célestes en Jésus-Christ, où tu répands sur eux toute bénédiction spirituelle qui les rend joyeux, ce qui leur donne la paix et une assurance. Le chemin véritable, nous le prenons. Bien sûr, parfois, les cailloux blessent un peu, mais plus les cailloux blessent, plus le chemin est rocailleux, plus nous avons, plus nous redoublons de courage, de force et de volonté pour arriver à bon port. Sois béni, Père Céleste, pour tes bienfaits. Te remercions pour l'appel que tu nous as adressé. Et bien souvent, tu nous fais ressentir cette atmosphère terrestre, cette atmosphère céleste qui nous élève, où l'on peut chanter en esprit, où l'on peut t'adorer en esprit, en vérité, où l'on peut te parler et t'écouter en esprit. Nous en remettons à toi, ainsi que nous te l'avons demandé pour commencer. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de nous-mêmes. Nous avons pleinement confiance en toi. C'est en nous-mêmes que nous n'avons pas confiance. Nous ne nous confions pas en nous-mêmes, en notre propre sagesse. Nous n'en avons pas. Nous nous confions en ta parole. C'est là que nous plaçons toute notre confiance. Accompagne tes enfants alors que nous terminons la réunion ce soir. Garde-nous sur le chemin. Ceux qui doivent prendre la route, que tu les gardes. Fais-les arriver à bon port. Garde leur départ ainsi que leur arrivée. Garde leur le voyage. Et même si le trajet est court, nous avons toujours besoin de ta protection et de ta conduite. Si nous faisons des mauvaises rencontres, donne-nous de vaincre, que nous soyons toujours en vainqueur, et que ton nom soit glorifié à cause du comportement que le Saint-Esprit lui-même nous fera faire, nous fera adopter. Nous soyons reconnus comme étrangers au milieu du monde, que nous puissions apporter un bon témoignage de là d'où nous venons, de là où est notre patrie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'adressons notre prière et nous te remercions. Amen. Dieu vous bénisse.